L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans les studios de Radio Spoutnik Afrique à Moscou Xavier Moreau, fondateur et directeur du Centre d'analyse politico-stratégique Stratpol. Avec lui, nous allons évaluer les récentes fuites vraies ou fausses de documents ultra-sensibles du renseignement américain concernant la conduite des combats en Ukraine. Nous nous focaliserons sur l'enjeu de ces fuites, leur impact sur la conduite des opérations et l'exploitation médiatique qui s'en est suivie. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le 10 avril, le très influent journal américain The Washington Post a publié un article faisant état de fuite de documents ultra-secrets de la CIA sur le conflit ukrainien via les réseaux sociaux. Trois jours plus tard, la presse américaine et internationale reprend une dépêche du New York Times annonçant l'arrestation du prétendu responsable des fuites. À la surprise générale, il s'agit de Jack Teixeira, un employé subalterne de la garde nationale aérienne du Massachusetts, âgé de 21 ans. Presque immédiatement, des doutes sont apparus quant à la version officielle des événements. Le 14 avril, l'un des invités de l'émission Judging Freedom, animé par Andrew Napolitano, a été l'ancien officier de la CIA, Larry Johnson, qui avait fait des briefings de sécurité nationale quotidien au président George Herbert Walker Bush, ou George Bush père. Il a affirmé que le niveau d'habilitation requis pour accéder à un des rapports fuités est tel que ces documents émanent forcément des services secrets américains eux-mêmes. Pour Larry Johnson, il n'y a aucun doute, il s'agit d'une opération interne de fuite contrôlée. Cette affaire a donné lieu aussi bien aux États-Unis que dans tous les pays occidentaux, à un vif débat dans les cercles politiques, militaires et médiatiques, non seulement sur le contenu des révélations, mais aussi sur la fuite elle-même. Est-ce une vraie fuite ou a-t-elle été fabriquée? Comment expliquer que des personnes en charge de la sécurité des États-Unis se livrent à de telles actions sévèrement punies par la loi américaine? La situation en Ukraine est-elle catastrophique au point d'amener des responsables des renseignements américains à prendre ce genre de risque pour alerter l'opinion nationale et internationale sur la réalité de la situation? Tous les développements sur toutes ces questions fondamentales dans quelques instants avec mon invité Xavier Moreau, fondateur et directeur du Centre d'analyse politico-stratégique Stratpol. Xavier Moreau, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Alors, la première question, le secrétaire d'État américain à la Défense, Lloyd Austin, et le général Mark Milley, le chef d'état-major interarmée des États-Unis, ont informé, lors de leur dernière audition au Sénat, que l'opération militaire spéciale russe était un fiasco et qu'elle est sur le déclin. Or, justement, à en croire ces documents, fuités selon Larry Johnson par de hauts responsables de la CIA, forcément, c'est tout à fait le contraire qui est vrai. Et en effet, déjà sur le plan humain, pour tout soldat russe tué, sept Ukrainiens meurent selon ces documents. Alors, est-ce que c'est cette situation qui a poussé ceux qui ont diffusé ces documents à agir? Et à votre avis, la priorité, selon vous, est-elle de trouver une issue négociée à ce conflit au lieu de lancer une contre-offensive, la soi-disant contre-offensive ukrainienne, durant le printemps, comme le souhaitent Washington et ses alliés?
Je pense que pour comprendre la fuite, bien sûr organisée, fuite contrôlée de ces documents, il faut revenir sur la stratégie qui a été adoptée par Washington au début de l'opération spéciale russe. Il y avait un plan A et il n'y a pas de plan B, en fait. Et ce plan A, c'était, on va faire en sorte que la guerre dure suffisamment longtemps pour que, avec les sanctions que nous avons mises contre l'économie russe s'effondre, que le peuple russe descende dans la rue, se soulève et remplace Vladimir Poutine par Alexei Navalny. En gros, c'était ça le plan.
Ouais.
Ce plan était mauvais, il était lié à une méconnaissance profonde de l'économie russe, mais il suffit de lire toutes les analyses qui ont été faites sur l'économie russe, y compris en français, par nos différents think tanks, l'IFRI, la FRS, qui faisaient en fait que copier ce qui était produit aux États-Unis. Il y avait une profonde méconnaissance de la résilience, du fait que l'économie russe est une économie de production. Donc elle est capable de survivre. Bien sûr que les sanctions ne sont pas indolores, mais elle est capable de produire l'essentiel de ce dont la Russie a besoin, et surtout c'est une économie qui exporte énormément, et donc elle peut toujours elle exporte des choses qui sont nécessaires. On parle des hydrocarbures, mais elle exporte de l'engrais, elle exporte des produits agricoles, donc en fait, quoi qu'il arrive, la Russie a toujours les moyens de gagner de l'argent. Donc cette méconnaissance a fait que le plan A de Washington n'a pas fonctionné. Il n'a pas fonctionné sur ce qui était donc la destruction de l'économie russe. Il a fonctionné, en revanche, sur la destruction de l'économie européenne. C'est-à-dire que l'économie Absolument. Allemande s'est pris de plein fouet l'augmentation des coûts de l'énergie. BASF ferme en Allemagne. Il y a toute une série d'usines qui vont fermer. Nous, en France, on a vu les boulangeries fermer. Et ça, c'est un résultat que les Américains veulent conserver. Donc aujourd'hui, ils ont un objectif, c'est que ce résultat brillant qu'ils ont obtenu contre l'économie européenne, de l'économie plutôt de l'Union européenne, soit maintenu. Et en même temps, il faut qu'ils commencent à préparer le fait que la stratégie donc de renverser Vladimir Poutine en créant une crise économique grave en Russie ne fonctionnera pas. Et aussi que cette victoire qu'on nous avait promis de l'Ukraine n'aura pas lieu. Mais il faut voir que ça ne date pas de ces fuites, en fait. Si vous regardez ces derniers mois, j'en ai souvent parlé dans mes différents programmes, que ce soit, vous aviez cité le Washington Post, mais le Wall Street Journal, Politico, le Financial Times, qu'on ne peut pas être soupçonné d'être des agents du Kremlin, vous voyez. Mmh. Ils ont souligné que la situation était grave.
Ils sont surtout les agents de l'Empire.
C'est exactement. Ils sont des agents, mais pas du Kremlin. Eux se sont mis tout d'un coup à publier. On avait vu également ça dans le Guardian, dans le The Economics, dans The Economist, pardon, de publications anglaises. On a vu tout d'un coup des doutes naître sur la quantité de pertes réelles. Et petit à petit, on a fuité des vrais chiffres. Quand Madame von der Leyen a parlé de 100 000 morts, bien sûr qu'elle n'a pas commis une bourde. Elle l'a dit délibérément parce que les gens sont déjà en train de se projeter dans l'après en disant non, mais on vous l'avait dit qu'il y avait eu 100 000 morts, on ne croyait pas les chiffres que donnait Kiev. Et en fait, ces fuites auxquelles on assiste aujourd'hui, qui sont, j'en suis persuadé moi aussi, comme tout d'ailleurs, que ce soit Denis Pouchiline, le gouverneur de Donetsk, que ce soit Peskov, le porte-parole du Kremlin, tout le monde est persuadé que ce sont des fuites organisées. Il s'agit d'une part de dire. Quand on sera dans l'après, je sais pas comment, après bataille, après guerre, etc., de dire non, mais on le savait, la preuve, regardez, sur les fuites qu'il y a eu, on était parfaitement au courant des faiblesses de l'armée ukrainienne. Il y a ça, et aussi, vous l'avez très bien dit, de préparer l'opinion publique américaine à passer à autre chose. En fait, c'est ce qui va se passer. Quand l'Ukraine aura perdu, on parlera de, je ne sais pas, le Covid-23, 24. L'invasion du Mexique pour lutter contre les cartels, ils vont trouver quelque chose pour parler d'autre chose. Et tout le monde aura oublié l'Ukraine comme aussi rapidement que les populations occidentales ont découvert l'Ukraine en 2022. Ils l'oublieront en 2023 ou 2024 lorsque le conflit sera terminé parce qu'on leur mettra autre chose en face du nez. Donc je pense que c'est ça. Ce à quoi on assiste, en fait, c'est l'échec de la stratégie américaine, l'échec relatif, parce qu'encore une fois, cette destruction de son principal concurrent, c'est-à-dire l'Allemagne, et l'économie européenne, reste un objet. Enfin, c'est bien joué. Alors, c'était pas très difficile, étant donné le niveau des élites au sein de l'Union européenne,
ouais.
Mais globalement, si vous voulez, ils ont quand même réussi à se débarrasser d'un des principaux concurrents.
Est-ce que les Américains, in fine, ne sont pas en train de jouer sur une stratégie de vouloir piller ce qui reste d'industrie européenne et la ramener aux États-Unis?
Bah si, je citais BASF. Alors, ils ne vont pas récupérer nos boulangers, mais nos industries, si. BASF quitte l'Allemagne, pourquoi? Pour où? Pour les États-Unis.
Bien. Maintenant, j'aimerais bien passer à une autre question, et celle-là, j'aimerais avoir votre avis d'expert militaire. Alors, dans son entretien avec Andrew Napolitano, Larry Johnson a dit quelque chose de très important. Il dit d'abord que c'est une stratégie médiatique coordonnée, c'est une campagne de désinformation. Les documents sont réels. Il dit « ils sont réels ». Je ne dis pas que les documents sont fabriqués, ils ne le sont pas. Mais cette histoire de couverture, donc un peu comme l'histoire du sabotage des Nord Stream 1 et 2, des groupes, je ne sais d'où ils sont sortis. Alors là, il dit que même cette histoire de couverture qui a été fabriquée pour expliquer comment ces documents ont été produits ne tient pas debout. Elle s'effrite simplement sur la base d'un seul document qui est répertorié comme rapport du centre d'opération de la CIA. Et donc, top secret, j'ai travaillé au centre des opérations de la CIA et j'ai aidé à préparer ce genre de rapport. Ce sont des documents internes à la CIA et personne sur une base militaire américaine, où que ce soit dans le monde, pas uniquement aux États-Unis, ne peut avoir accès à ce genre de documents. Alors, qu'en pensez-vous? Et le renseignement américain, qui a eu des précédents, le 11 septembre, la guerre en Irak, est-il en train de tordre le cou justement au bellicisme des politiques, habitués à ne pas assumer la responsabilité de leurs échecs?
Alors, je ne suis pas américaniste, mais en revanche, ce qu'on a pu observer depuis le début du conflit, c'est que vous avez déjà d'un côté le Pentagone, et de l'autre côté le ministère des Affaires étrangères. Parce que, bon, étant donné l'état dans lequel est Joe Biden, je pense qu'il ne décide plus grand-chose. Donc, ce n'est pas lui qui décide, donc c'est d'autres personnes qui décident. C'est le Parti démocrate, c'est les financiers du Parti démocrate, c'est ce que pense Pepe Escobar. Et en tout cas, le véritable porte-parole, c'est Blinken, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Et donc, je pense que les bellicistes, ce sont eux.
Rappelons, est un néoconservateur notoire.
Tout à fait. Et donc, je pense que les bellicistes, ce sont eux, parce que ce sont des idéologues, alors que les militaires, même le général Milley, qui est totalement aligné sur le Parti démocrate, et eux sont plus réalistes, et surtout, ils connaissent les chiffres. Ils connaissent ce que connaissent pas les idéologues, c'est-à-dire le poids des chars, la puissance des moteurs, les ressources en munitions, la capacité de la Russie. Ça, il est clair que les états-majors, que ce soit américains ou français, connaissent le complexe militaro-industriel russe, connaissent la capacité de l'armée russe et sa résilience. Donc autant, je pense que l'analyse était complètement faussée sur l'économie. D'ailleurs, je pense que l'idée, c'était de tenir entre 3 et 6 mois et qu'après, l'économie russe allait s'effondrer. Autant, je pense que sur le militaire, le Pentagone, comme l'état-major français, encore une fois, est parfaitement lucide sur l'issue de la guerre. Je suis certain qu'ils savaient depuis le début que les Russes allaient gagner. Mais ils veulent aujourd'hui que ça dure le plus longtemps possible. Et il y a peut-être une autre explication, d'ailleurs, que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, par rapport à cette fuite, c'est que je pense aussi que le Pentagone et les responsables américains ne veulent pas que l'Ukraine lance une grande offensive. Parce qu'ils ne veulent pas que tout ce qui a été livré, tout d'un coup, soit haché menu par l'artillerie russe, par la puissance de feu russe qui est en train de se développer. On a vu arriver les bombes planantes d'une tonne 5 qui sont en train de démonter toutes les lignes de défense de l'armée ukrainienne. Donc, ce qu'ils préféreraient, eux, pour que ça dure. Rappelez-vous que le but, c'est que ça dure. L'issue est parfaitement connue par Washington. La Russie va gagner cette guerre. Le 24 février, elle a gagné la guerre. La question, c'est combien de temps ça va durer et qu'est-ce qui restera à l'Ukraine à la fin? Et plus on attend, moins il restera de choses à l'Ukraine. Et donc, le but, c'est de faire durer cette guerre le plus longtemps possible. Et pour cela, il vaut mieux multiplier les barkmouths. C'est-à-dire qu'au lieu d'en lancer une offensive en plein dans la steppe, dans la région de Zaporogé, qui risque de se faire broyer par l'artillerie russe, eh bien le mieux, c'est de se barricader dans Slaviansk, de se barricader dans Kramatorsk, de se barricader dans Zaporogé, de se barricader à Dnipropetrovsk, pour qu'en fait, à chaque fois, la Russie ait besoin de mener un combat de localité lent qui va faire que la guerre va continuer encore.
Donc, si j'ai bien compris, pour vous, il y a une espèce de bicéphalicité dans le pouvoir. Il y a du côté les militaires qui savent qu'à la guerre, on meurt. Ce n'est pas un jeu vidéo, c'est pas une plaisanterie. Oui. Et les autres qui pensent uniquement d'un point de vue...
C'est l'ubérisation de la guerre. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ont commandé une quantité d'armes, que ça va être livré à l'Ukraine et qu'elle va pouvoir l'employer immédiatement et que ça va avoir des résultats. Non, c'est pas une pizza. vous livrez des armes, il faut la logistique, il faut former les gens dessus, et ça prend du temps. Et de toute manière, l'OTAN ne peut pas livrer suffisamment d'armes ni de munitions pour que l'Ukraine puisse gagner la guerre. Et surtout, à un moment ou à un autre, l'OTAN devra livrer des soldats. Et en gros, à part les Polonais, je ne vois pas qui est prêt aujourd'hui à aller faire la guerre à la Russie. Les Français, merci, on a déjà donné. Les Allemands aussi, personne n'a envie. Donc voilà, donc il y a ce côté, il faut que la guerre dure. Et puis cet affrontement, encore une fois, entre les idéologues du ministère des Affaires étrangères et l'état-major, qui est le Pentagone, qui dit, bon, on a fait ce qu'on pouvait, de toute manière. Ce qu'on peut faire encore, c'est faire durer la guerre en organisant des, encore une fois, ce que Hitler appelait les Festung. Le Festungsbefehl, hein, c'est l'ordre d'Hitler. En gros, à partir de la bataille de Kursk, où il commence à dire, on ne recule plus, et chaque ville devient une forteresse. Mmh. Et alors ça, c'est, évidemment, ça a ses limites. C'est-à-dire que les forteresses, à un moment ou à l'autre, on peut les contourner, et puis il faut quand même les approvisionner. Donc voilà. Mais le fait qu'ils en soient là, ça veut dire qu'en gros, il n'y a plus vraiment de solution du côté de l'OTAN pour tenir face à l'armée russe.
D'accord.
Il y a quelques semaines, l'éminent journaliste indépendant américain Seymour Hersh a publié un rapport d'enquête accusant ouvertement le président Biden et les hauts responsables de la Maison Blanche d'avoir ordonné le sabotage des deux gazoducs Nord Stream 1 et 2. Alors, dans son enquête, Hersh s'est appuyé justement, exactement comme ce cas de ces fuites-là, sur des sources internes des renseignements américains à Washington. Donc il a fait part d'affirmations selon lesquelles les États-Unis auraient mené l'opération secrète en utilisant une équipe de plongeurs de la marine américaine sous couvert de manœuvres de l'OTAN, donc qui se sont tenues l'été dernier. Alors, après avoir maintenu donc le silence pendant un mois quant à l'enquête publiée par Hersh, le New York Times, comme d'habitude, ce qu'on appelle les médias sources qui alimentent, après toute la pieuvre, qui abreuve les gens de discours complètement déphasés de la réalité, a publié un rapport développant donc une explication alternative aux explosions de Nord Stream 1 et 2, comme si c'était un mot d'ordre, il s'en est suivi une éruption d'autres reportages de médias occidentaux regurgitant ou racontant la même histoire. Et l'idée maîtresse de New York Times, exactement comme actuellement, c'est un simple soldat de la garde aérienne du Massachusetts, un loup.
Et là, c'est les plagistes ukrainiens.
Voilà.
Le Sporting Club d'Odessa, des plongeurs d'Odessa qui sont allés faire sauter le gazoduc. Oui.
Bien. Alors, la question. Comment expliquez-vous ce comportement des médias occidentaux agissant comme un système unique de désinformation et de lavage de cerveau piloté par un seul centre de commandement ? Nous voyons dans les deux cas, les informations viennent ou du Washington Post ou du New York Times, et puis on reprend et on ne réfléchit pas à quoi que ce soit. Et comment analysez-vous justement la légèreté des arguments du New York Times ou de cette fois-ci de comme dans les deux cas et le fait que les médias de Metz les ont suivis aveuglément.
Je pense que déjà, il y a une structure de l'information en Occident, c'est-à-dire, en fait, c'est les grandes agences de presse. Donc, vous avez la AFP, vous avez Associated Press, vous avez Reuters. Donc, ce sont les trois principales. Et elles disent toutes la même chose. Et à côté de ça, vous l'avez parfaitement souligné, vous avez des médias qui sont forcément connectés avec les services américains ou occidentaux ou avec les affaires étrangères, et on leur dit tiens, j'ai une information, en fait c'est le club de plongée d'Odessa qui a fait sauter le gazoduc dans la Baltique, et évidemment que ce serait bien que tu reprennes l'information. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait ce très bon film Spy Game avec Brad Pitt et Robert Redford. Et ça commence comme ça au début, en fait. C'est-à-dire que Robert Redford appelle un média, je crois que c'est à Hong Kong, pour faire filtrer une information sur le fait que Brad Pitt vient de se faire arrêter en Chine. Oui, quelque chose comme ça. Et en fait c'est quelque chose qui se passe en permanence. Vous voulez désinformer, vous faites filtrer une information dans un média où vous avez un journaliste que vous connaissez, et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, ce qui est regrettable tout de même, c'est que depuis l'invasion de l'Irak, on devrait quand même prendre un peu de recul lorsqu'une information nous arrive du côté américain.
Avec les... Mais aussi, ce qui est frappant, c'est la légèreté des arguments. Oui. C'est-à-dire, on accuse, par exemple, ceux qui apportent, comme vous, par exemple, on accuse ceux qui apportent la contradiction d'être des complotistes ou d'être des plaisantins. Mais excusez-moi, quand je vois moi les sources sur lesquelles ils s'appuient ou le niveau d'analyse, c'est l'hôpital qui se fiche de la charité.
Le général Yakovlev, qui était un commandant adjoint des forces de l'OTAN en Europe, a quand même sorti, je crois que c'est sur LCI, que c'était les Russes qui l'avaient fait pour une démonstration de force. C'est-à-dire qu'en gros, vous voulez impressionner votre adversaire, vous vous tirez une balle dans le genou. C'est ça qu'il voulait dire. Et on en a un moment où on peut raconter absolument tout et n'importe quoi. Je pense que... Et surtout, par exemple, vous parlez de moi, des gens comme vous et moi qui essayons de démonter un peu les bobards de la presse de grand chemin, des médias de grand chemin, comme dirait Slobodan Despot. Mais en fait, il y a déjà une première question qu'on peut se poser. C'est qui bono ? À qui profite le crime ? À qui profite le crime du MH17 ? À qui profite le crime de Nord Stream ? Certainement pas à la Russie. Certainement pas à l'Europe. À qui il profite ? À Washington. Et donc à Londres. Voilà, donc déjà, en principe, et à la Pologne. Mais la Pologne n'a pas les moyens techniques de faire sauter le gazoduc. Parce que, si vous voulez, il faut se rappeler que la manière dont étaient décrites les explosions, c'était quelque chose... c'était des centaines de kilos d'explosifs. Donc c'est pas des plongeurs amateurs qui vont aller, pour se venger des Russes, Ukrainiens, aller pour ça. Donc, mais en fait, on raconte n'importe quoi, mais comme derrière, vous avez... Les soi-disant experts, j'ai cité le général Yakovlev, mais c'est pas le seul. Sur tous les plateaux qui vont vous dire, oui, c'est les Russes ont fait ça parce qu'ils voulaient faire une démonstration de force. Il y a 4 centrales nucléaires en Ukraine. Il y en a une qui est sous le contrôle de la Russie, à Zaporojé. Les 3 autres sont sous le contrôle de l'Ukraine. Et on nous explique que les Russes tirent sur la seule centrale nucléaire qu'ils contrôlent. Oui. Mais donc, en fait, vous pouvez raconter n'importe quoi, mais vous avez une corde d'experts. Malheureusement, ça me fait bien de la peine, parce que la plupart, quand c'est des militaires, on fait Saint-Cyr, comme votre serviteur. Donc, mais comme ils arrivent et qu'ils n'ont absolument honte de rien, eh bien, en fait, ça finit, et puis c'est répété, c'est ce que disait Goebbels, hein, un mensonge répété 1000 fois finit par avoir la force de la... ou 10 000 fois, je ne sais pas combien, de la vérité. Et donc on en est là, et c'est bien triste, c'est bien triste.
Alors, sur cette question-là, justement, de la désinformation, cette histoire sur l'identité de la source des fuites, ne vise-t-elle pas à détourner, justement, l'attention du public des questions politiques et économiques qui les touchent directement à cause de l'engagement de leur pays en Ukraine contre la Russie et les tentatives maladroites de dissimulation par les médias qui, en réalité, n'apportent aucun argument qui tient la route, ne servent-elles pas, in fine, à incriminer davantage les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ?
Je pense qu'effectivement, il ne faudrait pas que les populations occidentales fassent le lien entre le marasme économique dans lequel ils s'enfoncent, c'est-à-dire l'inflation, notamment l'inflation des prix d'énergie, qui a eu des conséquences sur toute bien sûr, la production économique, et... les décisions qui sont prises par leur responsable politique. Et c'est d'autant plus important pour des pays qui n'ont rien à faire en Ukraine ou en mer Noire, comme les États-Unis et la France. Et d'ailleurs, il y a le fils de Donald Trump Jr., qui a fait un tweet où on voit une carte de l'Europe. Donc, à la place des noms des pays, c'est marqué « Ce n'est pas les États-Unis, ça non plus, ça pas encore, etc. » En disant « Ça ne nous concerne pas. » Nous, en tant que Français... Et d'ailleurs, mais les Africains, eux, ne sont pas engagés dans cette guerre, parce que leurs gouvernements sont plus raisonnables que le nôtre. Mais nous, en tant que Français, honnêtement, que l'Ukraine soit découpée entre la Pologne, la Russie, la Hongrie et la Roumanie, qu'elle soit comme elle était en 2014 ou en 1992, ça ne changera rien. Ce n'est pas notre problème en tant que Français. Et malheureusement, et donc il ne faudrait pas que tout d'un coup, les Français fassent le lien entre mais en fait, qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? D'autant plus que. Par conséquent, comme l'a reconnu Bruno Le Maire, l'énergie nous coûte 4 fois plus cher, qu'on s'est mis mal avec un de nos principaux clients, avec un pays, en l'occurrence la Russie, dans lequel nos entreprises avaient énormément investi et qu'on force maintenant, on force nos entreprises à quitter, etc., etc.
Et par ricochet, même le problème de la réforme de la retraite,
oui.
Par ricochet,
oui.
Cette situation, elle en a encore pour beaucoup dans cette accélération.
C'est quoi le problème de la retraite? Le problème, c'est que la France n'arrive plus à vendre ses obligations du Trésor à un prix raisonnable, parce qu'on a gelé les actifs russes. Donc si on veut retrouver de la crédibilité, faut dégeler les actifs russes. Pourquoi est-ce qu'on a gelé les actifs russes? Parce que Washington nous a dit de le faire. Mais qu'est-ce que les Russes nous ont fait? Rien. Les Russes nous ont rien fait, ça ne nous regarde pas. C'est ce qui se passe là-bas. Si la France était la France, elle aurait dit, écoutez, nous on n'est pas concernés par ce qui se passe en Europe de l'Est. L'Europe centrale orientale, c'est plutôt la zone de l'Allemagne, de la Russie, etc. On vous propose de venir à Versailles, discuter d'une solution de paix et des garanties de sécurité du plan que la Russie avait proposé à la fin de l'année 2021. Mmh. Plan qu'on a envoyé balader parce que, pareil, on a reçu l'ordre de Washington. Donc, effectivement, je pense que la grande inquiétude aujourd'hui de ceux qui nous gouvernent et donc qui dirigent les médias de grand chemin, c'est que les Français, par exemple, je pense surtout la France, parce que la France n'a vraiment rien à faire en Ukraine, finissent par se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on en est là? Et pourquoi, alors que notre pays est au bord de la banqueroute, on continue à alimenter une guerre dans laquelle on n'a absolument rien à gagner? Voilà. Et donc, c'est pour ça que le matraquage médiatique, vous allez avoir... l'opération spéciale a commencé, au bout de 2 semaines, je me suis dit, c'est bizarre, on n'a toujours pas l'histoire des viols de masse. Et ça finit par arriver. Viols de masse, massacres, donc tous les bobards qu'on a l'habitude d'entendre pour justifier les guerres impérialistes des Occidentaux, finalement, on a fini par nous les sortir. Et vous allez voir que plus l'armée russe va avancer, plus vous allez avoir des meurtres, des charniers dont on va parler, puis après, tout d'un coup, on ne va plus en parler. Mmh. Vous savez que, par exemple, sur les viols de masse, il n'y a pas, le parquet ukrainien n'a pas retenu une plainte.
Quand même.
C'est quand même pas mal. Il y a les viols de masse, mais il n'y a pas de plainte. Mmh. Donc ce sera... Et on est toujours dans l'immédiateté, de toute manière, c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que quand vraiment la question ukrainienne sera réglée par la Russie, l'Occident ne reconnaîtra pas sa défaite et aura... Alors, ils ont déjà un narratif. Par exemple, vous citiez Lloyd Austin, qui disait que... C'était le général Miley, je ne sais plus, qui disait que l'opération russe... Mais en fait, ce qu'ils vont vous dire à la fin, c'est... La Russie voulait envahir toute l'Ukraine, comme ils nous l'ont dit au début. Et finalement, elle a raté, elle a pris que, en gros, les ports et l'industrie. Alors, à mon avis, elle va même prendre Odessa et Kharkov, c'est fort possible. Une fois que l'armée ukrainienne aura été détruite, elle pourra prendre ce qu'elle veut. Et donc, même si la Russie prend ce qui, est, à mon avis, était son objectif initial du point de vue du territoire, en tout cas, à partir du mois d'avril, ça se dessine de plus en plus, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Nouvelle Russie, d'Odessa jusqu'à Kharkov, ils vous diront, oui, mais regardez, ils n'ont pas pris les Carpates et la ville de Kiev. Et donc, quoi qu'il arrive, ils vont nous vendre un narratif pour faire passer leur défaite pour une victoire. Je vous le garantis.
D'accord. Et bien sûr, il y a tout ce discours-là où tout est entremêlé, où on noie tous les problèmes, on désoriente les gens pour qu'ils n'arrivent plus à réfléchir et pour qu'ils n'arrivent plus à déceler justement qu'est-ce qui est leur intérêt, qu'est-ce qui n'est pas leur intérêt, qu'est-ce qui les regarde et qu'est-ce qui ne les regarde pas.
On fait d'un détail un sujet principal. Moi, ce qui m'a vraiment frappé du point de vue militaire, c'était Wagner. C'est-à-dire, tout d'un coup, on ne parlait plus que de Wagner. Wagner est à un seul endroit sur un front qui fait... on va retirer le Dniepr parce que c'est infranchissable par l'Union des armées, mais qui fait 450 kilomètres. Wagner est à Artemyovsk. C'est 10 000 hommes. Aujourd'hui, au minimum, l'armée russe présente sur le front, c'est 500 000 hommes. Mmh. Mais ils sont mis à parler de Wagner, parce que Wagner, c'est les mercenaires, les affreux, c'est Prigogine qui est une figure charismatique, qui en plus a une stratégie de communication franchement habile et qui sait se faire remarquer. Et donc, en fait, on nous fait nous concentrer sur le détail au lieu de voir la bataille sur le front dans son ensemble, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant pour la compréhension notamment militaire, des choses. Et donc ça, évidemment, c'est également la stratégie. Quand ça se passe mal pour l'armée qui vient, tout d'un coup, il y a un massacre, ou alors, les Ukrainiens ont réussi à balancer une grenade près de Belgorod en Russie, choses qui n'ont absolument qu'un intérêt militaire, mais qui permettent de ne pas parler de l'essentiel. Et c'est ça, le crime contre la vérité des médias de grand chemin, c'est vraiment ça.
« Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Xavier Moreau, fondateur et directeur du Centre d'analyse politico-stratégique Stratpol. Xavier Moreau, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
Et merci pour votre invitation une nouvelle fois.
Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous. Alors, les documents fuités donnent une évaluation brutale de la force militaire de l'Ukraine après une année de violents combats, soulignant les points faibles des défenses aériennes ukrainiennes et les problèmes probables d'approvisionnement en munitions. L'un des documents datés justement du début février qualifié de top secret offre une sombre évaluation de la contre-offensive entre guillemets toujours ukrainienne prévue au printemps, avertissant qu'elle n'entraînerait probablement pas de gains territoriaux ou au moins modestes qui sont bien en deçà des objectifs initiaux de Kiev. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Et où en est la situation réellement sur le terrain?
Déjà, le constat qu'ils font, on le faisait déjà quasiment au début du conflit. C'est-à-dire que le fait que l'aviation ukrainienne est totalement dépassée, il y a eu une interview très intéressante qui a été donnée dans le journal Vzgliad, donc un journal russe, d'un pilote russe de Sukhoi 34, c'est un chasseur-bombardier. Plutôt utilisé comme bombardier, comme chasseur. Et justement, il expliquait, il parlait avec beaucoup de respect des adversaires ukrainiens, mais il a dit tous les bons pilotes ukrainiens sont morts dans les premiers mois du conflit. Et aujourd'hui, il a dit ceux qui volent encore, ce sont des kamikazes. Et donc, la Russie a une supériorité en matière de défense aérienne, en matière de lutte anti-aérienne. Il expliquait précisément que les Sukhoi 35 qui sont déployés par l'armée russe permettent, à partir du territoire russe, d'abattre tous les avions ukrainiens qui ont le malheur de dépasser les 100 mètres sol. Aujourd'hui, l'aviation ukrainienne peut uniquement voler au ras des pâquerettes, essayer de faire un peu d'attaque au sol. Donc en fait, cette domination aérienne, c'était déjà une évidence. Tous les gens sérieux le savaient au mois de mai-juin de l'année dernière. Les munitions également. Et ça, encore une fois, ce n'est pas les Russes qui le disent, c'était déjà les responsables du renseignement militaire ukrainien, de l'état-major, qui disaient, quand les premiers chiffres qui ont été donnés par les Ukrainiens, c'est quand les Russes tirent 50 000 obus par jour, on en tire 6 000. Donc on en est à ce rapport de force. Et en gros, les pertes, puisqu'il est question de ça également, les pertes ukrainienne par rapport aux pertes russes sont proportionnelles à cette supériorité de puissance de feu russe. Et elles vont aller quand ça croissant. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens ont de moins en moins de munitions, parce qu'en plus ils ont dû faire un changement de calibre en plein conflit, c'est-à-dire comme il n'y avait plus de réserves de munitions des calibres soviétiques, les pays de l'OTAN ont commencé à livrer des canons de l'OTAN, donc les soviétiques c'est par exemple 152 mm pour le gros calibre et 155 pour l'OTAN, ils doivent s'adapter, ce qui est très compliqué du niveau logistique, pour obtenir ces munitions, d'autant plus qu'elles viennent de Pologne, elles passent par la Pologne ou peut-être par la Roumanie ces munitions, donc elles font un long chemin avant d'arriver sur le champ de bataille. Et donc ce problème de munitions, il est là depuis le début. Et c'est heureux que, enfin, plus d'un an après le début de l'opération spéciale, on s'aperçoive que les Américains sont finalement au courant. Voilà. Bon, sachant que la question des munitions, elle est quand même publique depuis ces derniers mois.
J'ai regardé un peu les chiffres, justement, qui ont été divulgués dans ces dossiers. Alors, d'abord, ce qui a été promis n'a pas été totalement livré, et la qualité laisse à désirer, notamment concernant les chars et quelques blindés, quelques canons, et ainsi de suite. Ça n'a pas été livré, donc... Moi, je comprends que la conclusion, c'est justement pour ça qu'ils disent que ça ne sert à rien de faire une contre-offensive, elle ne réussira pas. Mais moi, j'aimerais vous poser une question d'expert militaire à vous. Supposons qu'ils ont livré ce qu'il faut en chars et en canons, etc. Sans couverture aérienne, est-ce que ces livraisons peuvent avoir le moindre effet sur le terrain?
Non, ça peut pas réussir. Ça ne peut pas réussir parce que quand vous êtes en offensive, au moment où vous arrivez par exemple à percer la première ligne ennemie, vous n'êtes plus couvert. vous n'êtes plus couvert par votre...
S'il n'y a pas une couverture aérienne, c'est pas possible.
Par votre couverture de l'artillerie, puisque votre artillerie, elle n'avance pas aussi vite que les chars, si vous voulez. Et ensuite, il n'y a plus de couverture de guerre électronique. Donc tout d'un coup, vous êtes en plein dans un territoire où vous êtes à la merci d'une armée, c'est-à-dire en l'occurrence l'armée russe, qui a une puissance de feu qui est de 8 contre 1, voire 10 contre 1 à mon avis maintenant, d'une aviation qui est capable de larguer des bombes d'une tonne 5. Et si vous voulez, une bombe d'une tonne 5, ça vous creuse un lac. Hein. Et a priori, les Russes sont en train d'arriver avec des bombes qui font 2 tonnes, 3 tonnes. Donc en fait, et quand vous lancez une offensive, à un moment ou un autre, il faut faire une concentration des forces. C'est-à-dire qu'il faut amener un bloc blindé de chars bien compact qui va percer les défenses. Et à ce moment-là, c'est là où vous êtes le plus vulnérable. Mmh. Et c'est extrêmement risqué, ce serait extrêmement risqué aujourd'hui pour l'Ukraine de faire ça. Je pense qu'elle s'en remettrait pas. Et donc c'est pour ça que je reviens à ce qu'on disait dans la première partie de l'émission, c'est-à-dire que je pense que ce que veulent les Américains, c'est que la guerre dure, et pour ça, il a dit, écoutez, les chars, vous allez les mettre à Slaviansk-Kramatorsk, dans les cours des immeubles, dans les jardins d'enfants, comme ça en plus, quand les Russes détruiront un jardin d'enfants pour détruire le char, on va vous faire une bonne communication à ce sujet-là, et puis on va continuer, et ça vous permettra pas de gagner la guerre. Mais ça va nous permettre d'espérer épuiser la Russie et son économie dans la guerre.
Jusqu'au
dernier Ukrainien, peut-être le dernier Polonais, mais je n'ai pas l'impression non plus que les Polonais aient tellement envie d'aller mourir pour une chimère.
La nouvelle doctrine de la politique étrangère russe a été rendue publique le 31 mars suite à son approbation par le président Poutine. Alors, dans ce document, nous pouvons lire que les objectifs à long terme de la diplomatie russe, aussi bien politique et économique que sécuritaire et culturelle, sont fixés par rapport à une réalité et qui est que l'humanité traverse une époque de changement révolutionnaire, un monde plus équitable et multipolaire continue à se former. Le modèle inéquitable du développement mondial qui a assuré pendant des siècles la croissance économique accélérée des puissances coloniales à force de s'approprier les ressources des territoires d'autres États, en Asie, en Afrique, et ainsi de suite. Et le rapport dit, ou la nouvelle doctrine dit, ce monde appartient désormais au passé. Alors, la Russie met le cap actuellement sur l'Eurasie, et l'Amérique latine et l'Afrique, et concentrera son énergie créatrice sur les vecteurs géographiques de sa politique étrangère, présentant des perspectives évidentes du point de vue de l'élargissement de la coopération internationale mutuellement avantageuse dans le cadre du respect de la souveraineté des pays et du droit international. Comment voyez-vous ce changement de cap stratégique de la Russie qui, finalement, après des décennies de mirages de pouvoir bénéficier d'une coopération avec l'Occident ou d'un respect qu'on avait vraiment une vive envie de décrocher, se détourne finalement de l'Occident au profit de l'Eurasie, de l'Afrique et de l'Amérique latine?
Alors, je dirais que dans ces nouvelles conceptions, il y a une rupture, mais il y a une continuité. Si vous remontez au premier discours de Vladimir Poutine, notamment, il était encore Premier ministre et avant de devenir président, donc en 1999, il publie un texte qui s'appelle « La Russie à l'aube du prochain millénaire », quelque chose comme ça. Et dedans, il parle déjà de Zolotoy Milliard, c'est-à-dire le milliard en or. C'est un concept qui a été inventé par...
Ça, c'est en 99.
En 99. Vous pouvez vérifier, dans son discours en 99, il parle du milliard en or. Et le milliard en or, c'est un concept qui a été inventé par un intellectuel soviétique, j'ai oublié son nom, a été repris récemment encore par Vladimir Poutine, en 2022, notamment dans ses discours, au mois de février. Et en fait, c'est l'idée qu'il y a en fait un milliard d'habitants de l'humanité qui vivent sur le dos du reste de l'humanité. En fait, c'est ça. Donc, ce qu'on voit, par exemple, c'est cette notion, on la retrouve dans la nouvelle politique étrangère. On trouve également la notion de la multipolarité. Premier discours de Vladimir Poutine devant la Douma, on est en juillet 2000. Il parle déjà du monde multipolaire, des nouvelles menaces, le terrorisme, etc. etc. Et puis après, on sent progressivement un durcissement des discours de Vladimir Poutine. Il y a le fameux discours de Munich en 2007. Et puis ça aboutit finalement donc à la proposition qui est quasiment une obligation de donner des garanties de sécurité à la fin de 2021. On en a parlé. Donc ça, on est quand même dans une continuité, multipolarité, et il y a le milliard en or d'habitants de la planète qui profitent, notamment par l'énergie pas chère, du reste de la planète. Donc ça, c'est la continuité. La rupture, c'est la désignation de l'ennemi. Et ce qui est intéressant, c'est que Poutine publie ça 15 jours après que le président Xi Jinping, lors de son élection comme président pour un nouveau mandat, désigne lui aussi l'ennemi. Donc, disons l'adversaire, pour pas être trop dur dans les termes. Mais globalement, là, il y a comme la guerre, donc on peut qualifier ça d'ennemi. Et ça, en fait, ça c'est nouveau. Parce que, effectivement, il y a eu toujours une volonté, une tentative de venir Poutine, de se dire, ils vont être raisonnables, on leur propose un accord gagnant-gagnant, ils vont finir par l'accepter. Et là, c'est le fait qu'ils prennent acte qu'il n'y a pas moyen de négocier. Et que de toute manière, en plus, si on négocie, la signature ou la parole donnée n'aura aucune valeur. On l'a vu avec les accords de Minsk, on l'a vu avec la promesse faite de ne pas étendre l'OTAN aux pays d'Europe de l'Est. Et enfin, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que c'est aussi une réponse à la nouvelle doctrine, au nouveau paradigme américain, qui a été proclamé par le secrétaire d'État américain à la Défense, Jim Mattis, en janvier 2018, du nouveau paradigme des puissances révisionnistes. Je cite. Le paradigme depuis le 11 septembre 2001, c'était la lutte contre le terrorisme. Ça a été l'excuse invoqué par la politique impérialiste de Washington d'envahir l'Afghanistan, d'envahir l'Irak, de détruire la Libye, d'essayer de détruire la Syrie, etc. etc. Et donc, c'était en fait la grande excuse, c'était la lutte contre le terrorisme. En fait, finalement, tout passait dans ce paradigme. Et là, en 2018, Jim Mattis prend acte qu'on en est sorti et qu'il y a un nouveau paradigme, c'est la lutte contre les puissances révisionnistes. Il les cite, la Chine et la Russie. En quoi elles sont révisionnistes? Elles n'admettent plus l'hégémonie américaine dans le monde. Et ils promeuvent un monde multipolaire. Et en fait, la doctrine, donc en ça, c'est une rupture. Voilà, y a une continuité, et finalement, il y a une rupture, c'est ça. C'est que maintenant, précisément, la Russie, tout comme la Chine, désigne l'adversaire principal. Et on n'a pas de chance, c'est nous. Enfin, je veux dire, nous, les Occidentaux, pas vous.
Non, et puis le fait qu'ils pensent finalement, parce que c'est très important ce mot-là où ils disent, donc il dit que la Russie met le cap donc sur l'Eurasie, l'Amérique latine et l'Afrique, concentrera son énergie créative sur les vecteurs géographiques, c'est-à-dire sur la construction de corridors de développement et des pays avec des pays contigus, ce qui est un message pour ceux qui connaissent un peu la géopolitique, un message dur et sévère contre l'empire de la mer. Que c'est terminé, maintenant le développement va passer par le continent, c'est-à-dire et essentiellement donc l'Eurasie ou le côté est, disons.
Et c'est un moyen en plus de coller au projet chinois, One Road One Belt, et donc c'est ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, donc un axe est-ouest-ouest-est, et puis un axe nord-sud par le couloir de la Caspienne, la Volga jusqu'à l'Iran, et d'où la nécessité, par exemple, pour les Chinois, qui sont eux, qui ont une approche commerciale, c'est de réconcilier l'Iran et l'Arabie Saoudite. Okay. Parce que les Chinois veulent faire du commerce, ils n'ont pas envie d'avoir un conflit en plein milieu de leur route de la soie, vous voyez. Et en fait, c'est cette nouvelle approche qui donne des résultats. Et je dirais que nous-mêmes, en tant qu'Occidentaux, on doit peut-être essayer de se remettre en cause quand on voit les résultats diplomatiques obtenus par la Chine. Si tant est que la paix soit le souverain bien en politique, il faut peut-être se remettre en cause en se disant mais c'est peut-être faire comme les Chinois, le doux commerce de Montesquieu qui amène la paix entre les nations, bon, qui a toujours été très théorique comme concept, mais là les Chinois y arrivent. Et c'est nous, on devrait se remettre en question à ce moment-là. Et évidemment.
L'état-major interarmé des États-Unis a publié le 10 février 2023 sa doctrine du concept, ils appellent ça le concept commun de la compétition stratégique. Donc, dans ce document, c'est ce que vous voulez dire là, les puissances révisionnistes, ainsi de suite, l'identifient la Russie et la Chine comme, comme les dangers qui menacent
les menacent l'hégémon.
Ouais. L'hégémon, ouais. Ce document, donc préfacé et signé par le chef de l'armée américaine, le général Mark Milley, décline donc la stratégie, les moyens de guerre hybride dont la force militaire n'est qu'une partie du dispositif et qui devrait être déployée par une force combinée, interarmée, afin d'assurer les intérêts vitaux des États-Unis et pérenniser leur superpuissance stratégique, patati patata. Alors, à la lecture de ce document, il apparaît que les stratèges américains estiment qu'en cas de conflit ouvert, les États-Unis ne pourront pas faire face simultanément à la Russie et à la Chine, d'où, justement, ils préconisent de déplacer la concurrence vers des domaines où les États-Unis peuvent utiliser leurs avantages, c'est-à-dire tous les domaines, tout simplement, où ils peuvent influencer. Et leur effet de levier et leur initiative, et tenter donc d'obtenir par ça les résultats stratégiques escomptés dans d'une région ou dans une autre du monde. Alors comment voyez-vous la dualité justement entre les deux concepts de politique extérieure des États-Unis et leurs alliés, de l'OTAN d'un côté et la Russie et la Chine de l'autre? Et le monde, à votre avis, s'achemine-t-il vers un équilibre ou au contraire vers un conflit dévastateur?
Les Américains ont peu de leviers, finalement. Le levier auquel on pense le plus, c'est la technologie. C'est-à-dire empêcher les Chinois, et puis accessoirement les Russes, de rattraper technologiquement les États-Unis. Je dirais même moins d'ailleurs les États-Unis que l'Asie. Parce que finalement, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la Chine pour être totalement autonome en tout? Bon, de l'énergie, mais maintenant elle a un accord avec la Russie, et puis avec l'Arabie Saoudite, mais également la capacité de produire des semi-conducteurs, des microprocesseurs à très basse nanométrie. Et cette technologie, c'est pas les États-Unis qui la contrôlent, c'est Taïwan et la Corée du Sud, c'est eux. Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'exige depuis Donald Trump, et là il y a une continuité entre Biden et Trump, c'est que TSMC, donc le producteur de semi-conducteurs taïwanais, implante une usine aux États-Unis. Alors les Taïwanais sont d'accord, mais ils ne veulent pas non plus mettre la toute dernière technologie, parce qu'après les Américains n'auront plus besoin de Taïwan. Vous voyez ? Donc c'est aussi un moyen de se tenir les uns les autres. Et ils empêchent également, pour fabriquer ces systèmes de lithographie qui permettent de forger les microprocesseurs à très basse nanométrie, il faut des machines-outils. Et il y a en gros un pays qui produit, c'est la Hollande. Et la Hollande, désormais, n'a plus le droit d'exporter ces systèmes de lithographie, ni vers la Chine, ni bien sûr vers la Russie. Il faut des lentilles spécifiques allemandes, des Zeiss, je crois, c'est pareil, ils n'ont plus le droit d'exporter. Donc en fait, ils essayent d'empêcher, de ralentir la progression, essentiellement de la Chine, vers ces capacités de gravure, de lithographie par la Chine. Le problème pour eux, c'est que la Chine ne reste pas les mains dans les poches. Les Chinois sont un peuple d'élite. Et quand vous mettez des sanctions et que vous mettez un blocus sur un peuple d'élite, ça ne marche pas. Parce qu'il va essayer de s'en sortir. C'est exactement... Ça marchera aussi bien que le blocus continental de Napoléon contre l'Angleterre. Voilà. L'Angleterre a fait sa révolution industrielle 20 ans avant nous grâce aux sanctions de Napoléon. Parce que tout d'un coup, vous êtes obligé de trouver des solutions, d'être imaginatif. Et quand vous êtes un peuple d'élite, eh ben vous y arrivez. Et les Chinois, aujourd'hui, sont en train de rattraper leur retard. Ce que je vous dis honnêtement, il y a 5 ans, je ne pensais pas que c'était possible. Le retard était tel. Et les Chinois sont en train d'y arriver. Et là aussi, c'est un enjeu fondamental, hein, dans cet enjeu des semi-conducteurs. Si les Chinois rattrapent, ça veut dire que le dernier réel moyen de pression, je pense, américain sur le monde multipolaire, c'était celui-là. C'est-à-dire qu'on va s'emparer de la technologie la plus avancée et vous n'y aurez pas accès. Et surtout, il y a quelque chose aussi, c'est que cette volonté de nuire à la technologie chinoise a un impact très grave. Ça a été souligné par Bill Gates, notamment. C'est qu'en fait, la production de microprocesseurs, de cartes électroniques, etc., en Chine, est liée aussi à l'industrie aux États-Unis. Il y a énormément de choses qui sont produites et qui sont déjà incluses dans les produits qui sont fabriqués aux États-Unis. Donc en fait ils se tirent également une balle dans le genou en faisant ça. Mmh. Et donc la stratégie, on la voit très bien. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un microprocesseur Intel. Il est arrivé par la Chine, mais il était fabriqué au Vietnam. Et donc c'est d'essayer de trouver des alliés contre la Chine avec qui on va pouvoir de nouveau faire un échange technologique. Mais ça va prendre énormément de temps. Et encore une fois, la Chine ne reste pas les bras croisés. Et sont capables d'investir des milliards et des milliards dans la recherche, parce que c'est une question, c'est aujourd'hui, c'est plus une question de... Pourquoi est-ce que tout le monde achetait, y compris les Russes, leurs microprocesseurs à Taïwan, à TSMC ? Parce que c'était pas cher, parce qu'ils en produisaient tellement qu'il y avait du volume, et donc, par paresse. Et là, aujourd'hui, les Russes se rendent compte du fait que, on va avoir notre propre production. Donc, il y a des grands projets, de parler sur la lithographie. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je suis curieux. Mm-hmm. Je sais que ça va être extrêmement difficile. Parce que les Chinois qui sont sanctionnés sur ce sujet-là depuis 5 ans, depuis Donald Trump, en gros, ont du mal à avancer. Les Russes sont plus en retard que ne l'étaient les Chinois quand ils ont commencé à vouloir rattraper. Mais ce que je veux dire, c'est que, quoi qu'il arrive, même si les Russes trouvent une solution... leurs microprocesseurs seront plus chers que ce qu'ils achetaient en masse à l'époque, même si c'est eux qui fournissaient l'architecture du microprocesseur. Mais, comme l'a dit Vladimir Poutine lorsqu'il a commandé l'opération spéciale, de toute manière, nous aurions eu les sanctions tôt ou tard, et la souveraineté ne se partage pas. Il faut être souverain dans l'énergie, dans l'agriculture, dans les hautes technologies, dans la production de voitures, etc. Et ça, les sanctions et les contre-sanctions l'ont permis en 2014-2016 dans certains domaines, principalement l'agriculture, et les nouvelles sanctions contre sanctions vont le permettre parce que nous n'avons pas le choix. Mmh. C'est ça aussi, je pense que Vladimir Poutine a mis délibérément son pays dans une situation où en fait, les gars, maintenant, il faut y aller. Il faut être imaginatif, créatif, il y a de l'argent, la Russie regorge d'argent, donc on peut investir, on peut faire ce que font les Chinois, et en plus, les Chinois vont nous y aider. Les Chinois vont nous y aider.
Il y a la technologie de l'autre côté, il y a les matières premières en
c'est
Sibérie.
C'est tout ça.
Ce qu'il faut pour la fabrication des semi-conducteurs.
Les gaz, il y a besoin de gaz rares également, de produire des gaz rares pour forger tous ces. Et c'est la Russie qui les produit. Donc la relation est finalement assez équilibrée entre la Chine et la Russie. La Russie a besoin de technologie. La Chine a besoin d'énergie. Elle a besoin aussi de technologie qu'elle ne maîtrise pas ou pas encore très bien. Les moteurs d'avion, par exemple, les Chinois ont énormément de retard, que ce soit les avions militaires ou les avions civils. Les armées hypersoniques, les Chinois sont devant les Américains, mais bien derrière les Russes, qui déjà fabriquent en série. Donc, c'est un partenariat. Je comprends que ça inquiète les États-Unis. Je leur proposerais bien une nouvelle approche, gagnant-gagnant, on arrête de se menacer, on essaie de trouver où est-ce qu'on peut trouver. Ce que voulait Vladimir Poutine, sincèrement, je pense, au moins jusqu'en 2007, et même jusqu'en 2014. Je pense que le coup d'état de Maïdan a été le moment où la Russie s'est dit « Ok, on ne peut pas compter sur eux ».
D'accord. Bien. Alors, l'actualité oblige... j'aimerais vous poser une petite question, à ce titre, d'après ce que vous venez de développer. Comment analysez-vous la visite d'Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen en Chine et les résultats de la visite ? Et que pensez-vous de la neutralité stratégique évoquée par Macron vis-à-vis des États-Unis en Chine, hein, je rappelle, en Chine, dans leur lutte contre ce pays ? Alors, est-ce que c'est le président de la France en Chine ou c'est Tintin en Chine ?
Non, oui, ça ressemble plus à Tintin. Je pense que c'est un fiasco complet et que le problème pour Emmanuel Macron, c'est qu'il a enchaîné un fiasco en Afrique par un fiasco en Chine. C'est au moins aussi grave. Parce que il faut voir une chose, c'est que la France a plutôt bonne presse en général en Chine. Pourquoi ? Parce que Général de Gaulle est le premier pays à avoir reconnu la Chine communiste en janvier 64. Et après, Nixon n'a fait qu'embrayer derrière le Général de Gaulle. Et donc, en fait, ils attendaient le nouvel héritier de la Ve République, si vous voulez. Et en fait, il est arrivé avec son espèce de nounou, von der Leyen, qui pour les Chinois ne représente rien. D'ailleurs, ils l'ont bien fait sentir. Et qui était là vraiment pour représenter... C'est comme si elle était là pour faire en sorte être certaine que Macron ne dise pas autre chose que ce que Washington attend de lui. Il y a ça. Et de toute manière, comme l'a expliqué un de mes amis chinois qui est venu à Moscou au moment de la visite de Xi Jinping, le ministère des Affaires étrangères français, alors l'a-t-il fait exprès ou pas, nous le verrons, a saboté le voyage de Emmanuel Macron en menaçant la Chine. C'est-à-dire que Mme Colonna c'était 2-3 semaines avant le départ, a mis en garde la Chine de ne pas livrer des armes à la Russie, ce qui était idiot, c'est la Russie qui livre des armes à la Chine. Donc, dans la mentalité chinoise, avec la notion de perte de face qui est très importante, pour ne pas perdre la face, la Chine ne peut plus rien accorder à la France de ce côté-là. Et en plus, c'était dit par le journal Politico, à deux moments, Emmanuel Macron a perdu son calme et a commencé à hausser le ton. Et ça aussi, c'est une perte de face pour les Chinois. Mmh. Et donc là, ils se ferment. Il m'explique, c'est très bien. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a personne pour expliquer ça à Emmanuel Macron au Quai d'Orsay, en lui disant, attention, on va en Russie, faut remercier les Russes pour la Deuxième Guerre mondiale. Ça leur fait plaisir, ça les déride tout de suite, ils sont contents que vous vous souveniez, et parce que le contact humain est important aussi, vous voyez. On le voit, entre Xi et Poutine, il y a une relation entre les deux chefs d'État qui dépasse les simples États. Ils s'entendent bien, ils se respectent mutuellement. On a vu ça avec Bolsonaro et Poutine, on voit ça avec Orban. Ils ont réussi, parce qu'il y a une communauté d'idées, de caractères, voilà. Et donc là, il n'y a eu personne pour expliquer à Macron, on va chez les Chinois, donc la notion de perte de face est très importante, donc on ne les menace pas, on ne les insulte pas, on ne lève pas le doigt. Voilà. Sinon, on n'aura rien. Et donc, il a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire, parce que je pense qu'il n'y a plus personne au Quai d'Orsay qui est capable de lui expliquer ça. Il n'y a plus que
c'est vrai que... Même quand, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il est parti en Afrique, et qu'il avait dit que les Africains étaient un peu hypocrites dans leur position par rapport à la guerre en Ukraine, et je ne sais pas, dans une autre déclaration, il dit que la Russie est la dernière puissance impérialiste qui débarque en Afrique.
Ouais. Il les prend pour des idiots de sortir un truc pareil.
Mais c'est pour rebondir ce que vous voulez dire.
Ouais, vous avez raison.
On a l'impression que ceux qui lui font la note d'information avant le voyage, les diplomates, ils se sont même pas donné la peine de lire un article Wikipédia. Wikipédia, hein, juste vite fait, c'est-à-dire en diagonale pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a fait la Russie en Afrique, avant qu'il... Mais parce que c'est une contre-vérité. Ça n'a pas de sens.
Bah, écoutez, j'ai eu le plaisir d'assister au sommet Russe-Afrique en novembre ou octobre 2019. Je vais assister à celui qui aura lieu à Saint-Pétersbourg en juillet de cette année. C'est pas compliqué, les Africains veulent être considérés comme des États. Et les chefs d'État comme des chefs d'État. Quand Macron fait son forum Afrique-France, il invite des représentants des ONG. Les démocraties africaines ne sont pas parfaites, mais nous, on est bien un pays qui peut donner de leçons à personne, même pas à la Corée du Nord, quand on voit comment Macron a été élu dans les dernières élections. Donc, peut-être qu'il y a des chefs d'État qui sont arrivés par un coup d'État, par des élections truquées, ça ne nous regarde pas. Ce n'est plus des puissances coloniales. Donc, ce sont des puissances qui vont être traitées comme telles. Et par exemple, moi, je vais vous dire... Emmanuel Macron, je pense, est arrivé notamment en 2017 par un coup d'État médiatico-judiciaire contre François Fillon, qui aurait dû être élu. Mais je ne veux pas que les Russes me fassent la leçon sur ce sujet, en disant c'est mon problème de français, laissez-moi le régler. Absolument. De la même manière que nous, on n'a pas à dire aux Russes, vous savez, Poutine, vous votez pour lui, parce que personne n'ose contester quand même les élections, mais il est très méchant. C'est pas le problème. Ce qu'il faut, c'est des relations d'État à État et de chef d'État à chef d'État. Et de mettre de côté la colonisation, etc. C'est pas un sujet, la question. C'est la grande force des Russes, donc quand j'étais à ce forum économique en octobre 2019, c'est que le discours s'y était, écoutez, on a un passé plutôt positif entre nous, puisqu'on vous a aidé à la décolonisation en tant qu'URSS, etc. Mais nous, on veut parler du futur. Vous avez des choses qui nous intéressent. On a des choses qui vous intéressent. À la chinoise, trouvons un accord et puis organisons des échanges positifs. Formons une partie de vos étudiants en Russie pour qu'ils parlent russe et qu'ensuite on puisse avoir des relations de constructives. C'est ça l'approche aujourd'hui, c'est pas compliqué. Mais Emmanuel Macron est toujours dans une vision, je dirais, précoloniale. C'est-à-dire à l'époque de Jules Ferry, le droit et le devoir des races supérieures vis-à-vis des races inférieures à nous amener leur valeur qu'ils considèrent universelle. Et le problème, et après je veux... mais c'est aussi que les valeurs aujourd'hui qu'on exporte, je ne sais pas si les Africains ont vraiment adhéré aux valeurs qu'on leur a exportées au moment de la colonisation, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, les valeurs de l'Occident, LGBT, wokis, etc., ça ne les intéresse pas et ça leur fait horreur. je le vois très bien dans les discussions que j'ai avec mes auditeurs qui sont des Africains francophones, ça les dégoûte. Ils ne veulent pas en entendre parler. Donc ça veut dire que si jamais vous voulez avoir des relations normales d'État à État, de chef d'État à chef d'État, vous n'allez pas essayer de vendre vos ONG, le mariage homosexuel, la transformation des garçons en filles et des filles en garçons. En Afrique, ça ne marchera pas. Et ça, il faut l'admettre que vos valeurs, c'est les valeurs d'un Occident que moi je considère personnellement dégénéré, ceux qui me suivent le savent. Si jamais on veut avoir des relations d'État à État, et pas néocolonial, eh ben, il faut traiter... Macron doit traiter un chef d'État, le chef d'État de n'importe quel pays africain, comme il traite Scholz en Allemagne, par exemple.
D'accord. C'était Xavier Moreau, fondateur et directeur du Centre d'analyse politico-stratégique StratPol. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.